7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Samira Ibrahim.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins. Vous avez faim ? Je vous pose la question car aujourd'hui dans 7 milliards de voisins, nous parlons de cuisine. Ah mais attention, pas n'importe quelle cuisine. Il s'agit ici d'une cuisine africaine métisse, moderne, une cuisine fusion, d'une cuisine ouverte qui se mêle aux saveurs et aux techniques culinaires du monde entier, parfois même des techniques gastronomiques. Nous parlons aujourd'hui d'une cuisine africaine audacieuse, tout comme nos invités. Prête à conquérir toutes les assiettes. Certains semblent dubitatifs, même méfiants, je vous vois. Comment adapter des recettes africaines, souvent riches, peut-être même peu adaptées à nos modes de vie ? Eh bien, vous risquez d'être bien surpris, car nos invités, aujourd'hui, vont probablement bousculer certaines de nos croyances. Ils vont nous mettre l'eau à la bouche, mais je suis un peu fâchée parce qu'ils sont venus les mains vides. Ils sont venus avec des photos, ils vont nous faire rire.
Pardon.
Glace roulée, façon taille aux bananes plantain, granité au jus de bissa, burger d'attiéké. Bon, j'arrête. On parle de tout ça avec nos invités. Aujourd'hui, Anto Cocagne, vous êtes chef. Vous êtes une chef d'entreprise aussi parce que vous lancez la deuxième édition qui se tiendra à Dakar de We Eat Africa, donc au Sénégal du 24 au 28 avril. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Samir.
Bonjour. Anto, c'est la première fois que vous venez les mains vides ? On vous a dit que j'étais au régime ou quoi ?
Oui, c'est vrai que je me suis excusée. C'est vrai qu'en 3 ans, c'est la première fois que je viens les mains vides, mais c'est la faute du festival. Hein. On est tellement dans l'organisation.
Voilà, tellement dans le rush.
Exactement.
À vos côtés, Rima Amer, vous êtes spécialisée dans l'afro-fusion au restaurant Awefa King Salomon de Lomé, au Togo. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, Rima, vous nous aviez préparé quelque chose, mais je crois que les plats ont été dévorés.
Voilà, effectivement, je viens d'une famille où il n'y a que des garçons, et très costauds d'ailleurs, donc les plats ont disparu. Donc désolée, la prochaine fois je ferai attention, je ne vais même pas cuisiner là-bas, je cuisinerai sur place.
Bon, très bien, on vous prépare ça pour la prochaine fois. Sylvain, vous êtes à mes côtés.
Bonjour.
Sylvain, bonjour. À Javon, vous êtes fondateur du restaurant Table Métis à Paris, vous êtes originaire de Côte d'Ivoire et du Togo, bienvenue.
Merci.
Ça va, cool.
Ouais, ça va, très
cool,
bien.
Cool, tellement cool que pareil, les mains vides.
Non, en fait, moi, je suis venu avec une bouteille de vin, mais on me l'a prise à l'entrée. Donc voilà,
désolé. Ouais, la belle affaire, je ne bois pas de vin, moi. Bon, c'est pas grave. Partie. Non, mais de toute façon, j'arrive à la table métisse. Et Fatih Niang, créatrice du premier food truck africain en Europe, Black Spoon.
C'est
bienvenue.
Ça. Merci.
Bravo, parce que je sens qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent.
Oui, oui, oui.
Hein,
ça avance.
Bonjour Fatih. Je suis ravie de vous revoir.
Pareillement.
Eh bien, voilà, nous parlons de cuisine aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, nous recevons encore beaucoup de recettes et nous avons évidemment notre ami à la technique Romain qui va s'occuper de nous. Je vous propose de commencer en jingle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein ?
7 milliards de voisins. C'est vous qui faites l'émission.
Et oui, c'est vous qui faites l'émission, évidemment. Et vous le savez, si vous voulez participer, vous voulez nous envoyer des recettes, des commentaires, vous pouvez le faire. Et je cherche le numéro que je trouve tout de suite. Vous pouvez nous envoyer ça au 33 1 84 22 71 71 ou nous envoyer des messages sur WhatsApp ou sur Facebook. Nous allons commencer tout de suite par une belle entrée en matière. On parle de fusion, on parle de cuisine métisse. Nous avons en ligne avec nous le roi du Atoukpou, qui est l'Attiéké Burger, un burger qui donne envie. Bonjour Ange. Allô ? Bonjour Ange. Alors Ange, vous êtes à Abidjan, c'est ça ? Vous êtes cofondateur de Alomiam, c'est une société de services de livraison de repas, et vous faites des burgers. Des burgers 100% africains. Je pense que nous allons rappeler Ange, Ange d'Abidjan, parce que la ligne n'est pas forcément très bonne. Des burgers africains, Je n'en ai jamais vu, je n'en ai jamais mangé. Vous connaissez ça, vous?
Alors, évidemment. La toukou, en fait, c'est de la tchéké.
Ouais, c'est de la tchéké.
Alors, c'est de la tchéké. Donc, normalement, la tchéké, la base même, c'est ibrié. Donc, ça vient d'Abidjan. Mm-hmm. Et la toukou a cette tendance-là à aller un peu plus loin dans le sud. Et donc, c'est une pâte toute ronde à base d'atchéké, justement. Mm-hmm. Et qui peut servir justement de base comme pain de burger pour pouvoir agrémenter ça et puis transformer. Et j'adore cette idée du burger.
Ah ouais, moi aussi, j'adore. En plus, j'aime beaucoup la tchéké. Donc, voilà. Ange est avec nous. Bonjour, Ange. Allô, allô. Bon alors, Ange, que se passe-t-il? Bon, Ange est en train de manger son burger à tchéké. Hein, je crois qu'il est très occupé, mais je comprends, je peux comprendre. Moi, j'ai une première question à vous poser, c'est que vous êtes, on parle de cuisine métisse aujourd'hui, et vous êtes tous absolument métissés, puisque vous, bon, je sais, en tout me regarde, non, moi, je ne suis pas métissée, mais vous êtes venu en France et vous, apportez aux gens beaucoup de diversité à travers la cuisine. Donc, pourquoi aujourd'hui, on sait que l'Afrique a le vent en poupe, pourquoi présenter une cuisine africaine justement avec des saveurs nouvelles, une cuisine moderne? Qui veut commencer? Sylvain?
Ouais, ok, d'accord.
Le seul homme.
Pourquoi une cuisine africaine contemporaine, moderne? En fait, c'est parce que moi, mes origines sont Côte d'Ivoire, Togo et France. Et j'ai travaillé dans la restauration. Un jour, je me suis dit que je voulais ouvrir mon restaurant. Et en fait, en cherchant, je me suis pas mal inspiré de la bistronomie parisienne dans laquelle j'ai travaillé. J'ai rencontré mon associé Romuald Metellus, qui lui travaillait dans un restaurant bistronomique parisien à l'époque. Je voulais ouvrir quelque chose qui me ressemblait un peu. Donc, du coup, c'est plus facile de prendre quelque chose qui fait partie de ses origines, en fait.
Voilà, vous avez travaillé pour de grandes enseignes françaises.
Ouais,
Et donc, du coup, ça vous a aussi donné envie de de proposer quelque chose de très différent.
Ouais, c'est ça, en fait. En s'inspirant de ce qui a été fait, de ce que moi, j'avais l'habitude de servir, aussi bien, par exemple, au bain, qui est
on un peut parler du bain, très... on peut parler du coste.
Ouais, on peut parler de mes...
C'est très parisien,
ouais,
quand
c'est
même.
Ça. Hein. C'est ça. Grandi à Paris, né à Paris, toute ma vie à Paris. Mais quand même, avec
mais
les saveurs de mon
africaine.
C'est ça, les saveurs de mon enfance où. C'était ma mère, par exemple, qui cuisinait le gombo, même si ma mère est française. Ouais. Et donc, moi, j'ai grandi avec le gombo de ma mère. Et en même temps, en dessert, j'avais la mousse au chocolat de ma mère.
Ouais.
Donc, on est complètement sur le métissage. Peut-être pas dans l'assiette à ce moment-là, mais en tout cas au niveau du repas. Et j'ai grandi comme ça. Et puis, à force de servir des super belles assiettes parisiennes, je me suis dit, un jour, je veux chercher un restaurant africain contemporain où je puisse manger ces ingrédients que je connais.
Vous ne l'avez jamais trouvé, c'est pour ça que vous l'avez fondé.
Donc, du coup, je me suis dit, si moi, je pense que ça peut... Je pense aller là-bas. J'imagine que d'autres personnes aussi. Donc voilà. Et puis en cherchant un peu, j'ai trouvé Chef Anto sur les réseaux. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait
incontournable. Incroyable. Mais vous êtes tous ici incontournables. Donc ça c'est bien. Et vous savez quoi, Ange est de retour.
Ça y est.
Bonjour Ange.
Oui, bonjour.
Comment ça va, Ange? On a gagné. Alors comment va ce burger à la tchéké? Ange, comment allez-vous d'abord?
La toukou burger.
Oui.
En fait, c'est...
Ange, il est direct dans le burger, quoi.
Oui,
alors, présentez-nous la toukou burger. Allez-y, je vous en prie.
Pardon?
Allez-y, parlez-nous de la toukou burger.
Oui, la toukou burger. En fait, on a eu l'idée de présenter le plat national de Taba sous une autre forme. Parce qu'on a des amis européens qui avaient la difficulté de pouvoir bien manger, parce que c'est difficile de manger avec des couverts normaux, la cuillère et la fourchette.
Mm-hmm.
Donc il fallait trouver une astuce pour pouvoir partager ce plat-là, le rendre accessible à tout le monde.
Mm-hmm.
Donc comme ça, on a eu l'idée d'utiliser la toukou, qui est à base de manioc, pareil que la tété. On a juste pris deux disques de la toukou, on a fait des filets de thon et on a assemblé le tout. Et on a utilisé le visuel que donnait le burger pour la présentation du plat.
Et ça marche comment, Ange? Est-ce que les gens étaient un peu réfractataires au début en disant « Mais non, mais c'est le plat traditionnel de notre pays, on ne peut pas, c'est sacrilège » ou est-ce qu'au contraire, ils ont aimé ça? Ils ont adhéré tout de suite?
Ça étonne tout de suite parce que c'est des composantes qu'on trouve partout.
Oui.
Mais personne n'a eu l'idée de pouvoir les agencer, de pouvoir les faire ressembler à l'hamburger, qu'on connaît tous. Mm-hmm. Donc, du coup, ça suscitait la curiosité de ceux qui mangent la tuité de façon usuelle chaque jour. Mm-hmm. Et ceux qui ne pouvaient pas manger de la tuité, ils ont trouvé une solution.
Alors, comment vous remplacez le pain ?
Le pain, on prend tout simplement la semoule de manioc qui est déjà fabriquée en forme de disque. Mmh. Celle-ci remplace le pain.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un burger plus diététique ?
Diététique, oui.
Déjà, c'est un burger sans gluten, parce que le manioc ne contient pas de gluten.
Tout de suite. Donc, ouais. Voilà. Ouais. Mais en même temps, quand on mange de la tiépé, on pense pas du tout à manger de ça, manière.
Si on veut faire diététique, c'est pas le burger qu'il faut prendre.
Merci infiniment, Ange. J'ai hâte de venir découvrir vos burgers. J'arrive bientôt. Merci infiniment. Merci. J'aimerais bien continuer ce petit tour de table par rapport à cette diversité. Pourquoi Rima ? Non. Rima, vous-même, vous êtes aussi d'origine libanaise. Vous êtes aujourd'hui au Togo, mais vous n'êtes pas originaire du Togo.
Non, effectivement, je suis d'origine ivoirienne et libanaise. Et française aussi.
Oui.
Et puis.
Vous êtes tombée amoureuse du Togo.
Je suis tombée amoureuse du Togo. Mmh. Et du Togolais aussi.
D'accord. Mais en fait.
Il faut bien préciser.
Oui, oui. Voilà. D'abord amoureuse du Togolais.
Amoureuse du Togolais et après du Togo.
Oui, oui.
D'accord. Et puis j'aime aussi tous les autres Togolais.
D'ailleurs, les histoires de cuisine, il y a toujours des histoires d'amour. On va se dire la vérité.
Alors donc, c'est un pays que j'ai découvert il y a peu. Il y a un an que je suis installée au Togo. Et chaque jour, pour moi, c'est une découverte parce que je suis arrivée là et c'est tous les jours un sourire pour moi sur le visage. Donc, et qui me permet de me performer dans ce que je fais et puis démontrer mon savoir-faire. Parce qu'ils sont très ouverts à ce type de cuisine totalement différente des cuisines ancestrales que nous avons pu connaître de par nos mères. Et puis pour moi, c'était l'occasion de raconter mon histoire et puis ma culture qui est totalement diverse, en montrant que je pouvais partir de la cuisine ancestrale et puis montrer qu'avec le modernisme, nous pouvions adapter cette cuisine-là, raconter notre histoire et puis surtout montrer que c'est un partage et qu'on a cette humanité-là qui est typiquement africaine, qu'on peut démontrer à tout le monde. Donc, le métissage, pour moi, c'est la cuisine.
Vous voyez qu'il faut parler. Alors, vous êtes sur de la cuisine fusion. Je sais que Sylvain, lui, c'est pas le terme qu'il aime employer, mais on va revenir à tout ça. On va continuer ce tour de table. Anto, vous êtes venu en France pour étudier la cuisine traditionnelle. Vous avez fait un cursus vraiment classique, école Ferrandi, tout ça. Mais à la base, les parents n'étaient pas ravis que vous choisissiez la cuisine, n'est-ce pas ?
Non, au départ, ils n'étaient pas ravis parce que ça commence à changer, mais encore aujourd'hui, être cuisinier, c'est être domestique, c'est une voie de garage.
Vous aviez fait des études d'économie, donc pourquoi ?
On a raté sa vie, donc on fait de la cuisine. Toutes les femmes savent cuisiner, donc pourquoi payer une école pour faire ça ? Enfin, c'est beaucoup de préjugés, des stéréotypes, mais...
Alors justement, pourquoi ? Qu'est-ce que vous vouliez faire à travers la cuisine ? Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message ?
Ben, moi, je me suis rendu compte que c'était le seul endroit où je ne m'ennuyais pas. Déjà parce qu'il y avait tout, c'est là que les mamans cuisinaient, qu'on savait que voilà, telle ça va pas dans son mariage, telle
les commérages.
Ah oui, j'étais toujours fourrée là. Donc moi j'étais toujours fourrée là parce que il y avait souvent les histoires, c'est là qu'on sait que oui, bon, il y a telle, elle arrive pas à avoir d'enfant, donc on lui donne la recette pour pouvoir augmenter la fertilité, que toi tu t'occupes pas bien de ton mari.
C'était le lieu,
la cuisine, c'était là que ça se passait, et moi je vais être là pour parce que mes oreilles étaient ouvertes. Mais c'est là aussi que je vois notamment ma grand-mère qui, quand on rate une sauce, comment la rattraper. Là, t'as pas bien fait, comment tu... Et du coup...
Les petites astuces.
Exactement, les astuces. Ah, là, t'as pas bien écaillé le poisson, c'est pas comme ça qu'on fait. Et je trouve intéressant parce que tous les jours, c'est différent. Contrairement à travailler dans un bureau que je trouvais monotone, ou à travailler dans un hôpital ou un dispensaire comme ma mère, où je n'insupportais pas voir la misère du monde, surtout qu'elle allait travailler avec des enfants. Et je me suis dit, la cuisine, c'est génial, parce que voilà, c'est là qu'il y a des choses, ça bouge, et c'est pour ça que je me suis tournée vers la cuisine. Mais pour revenir à ce que vous disiez par rapport à la cuisine qu'on peut retravailler de façon moderne. Je vais un peu pousser une sorte de coup de gueule parce que depuis quelques mois, je parcours un peu l'Afrique et je vais dans des hôtels où il y a des cuisiniers qui, à la carte, nous me proposent des quiches Lorraine, par exemple. Et je trouve ça scandaleux d'aller en Afrique et de manger une quiche Lorraine.
Bah, ça dépend quelle quiche Lorraine.
Oui, non, mais je veux dire, si je vais, si je vais à Dakar...
Non, mais si elle est travaillée à...
Non, si je vais à Dakar, je vais manger une quiche dakaroise.
Mais
si
voilà,
je vais
ça,
à Libreville, je vais manger une quiche libre-villoise. Mais je veux dire, même si on part de la base, de la quiche telle qu'on la connaît en France, mais qu'on utilise les produits du pays.
Bien
Sauf
sûr.
Que beaucoup ne font pas l'effort d'utiliser les produits du pays. Dernièrement, j'étais dans un pays où j'ai travaillé avec les cuisiniers. En fait, ils m'ont dit, nous, on ne sait pas qu'avec nos produits, on peut faire autre chose. Et donc, pendant 2 jours, on a fait le bissap, par exemple. Ils connaissaient que le bissap version sucrée. On a fait du ketchup avec le bissap. On a fait le bissap. On a fait des sauces pour le poisson. Je leur ai dit, le bissap est acidulé. À quoi ça vous fait penser? Quel est le plat où on pourrait mettre du bissap? J'ai essayé de faire travailler leur imaginaire. Et c'est comme ça qu'ils m'ont dit, à la fin des 2 jours, waouh, on ne savait pas qu'avec nos produits, on pouvait faire ça. La tieke, ils le connaissaient qu'en version salée. On a travaillé la tieke en version sucrée. Le fonio, ils le connaissaient qu'en pâte. On a travaillé, on a fait des chips avec. Et le problème, c'est que souvent, sur le continent, ils sont bloqués tellement par la tradition qu'ils ont du mal à se dire qu'on peut faire autre chose, on peut aller beaucoup plus loin. Et c'est le travail que nous tous, nous faisons ici, c'est d'amener, ce n'est pas de changer, parce que je sais que moi, je suis contre la fusion. Le but n'est pas de changer nos saveurs, mais c'est de les faire, c'est de retravailler le produit, c'est de le faire avancer. Parce que sinon,
de faire découvrir déjà.
Exactement. Et le faire découvrir de façon différente.
Et de le redécouvrir nous-mêmes.
Exactement. On a fait une tarte tatin, par exemple, et au lieu de la poudre d'amande classique, on a utilisé la pistache africaine.
Voilà.
Qui a les mêmes propriétés que la poudre d'amande. C'est que des choses comme ça. C'est pour dire, on n'est pas en train de vous dire changer, oublier la tradition. On est en train de vous dire, avec les produits que vous avez sur le continent, vous pouvez faire n'importe quelle cuisine.
Déjà apprendre à les connaître, les
Exactement.
Identifier et après peut-être les changer. Moi, j'aimerais aussi vous demander, Fatih Nyang, Black Spoon. Black Spoon a cartonné tout de suite. C'était le premier, vous êtes la première à avoir l'idée de monter un food truck africain. Ça se passe bien, non? Vous êtes, il y a de très beaux projets. Vous êtes maintenant... dans toutes les chez Total,
oui,
dans toutes les stations,
ça arrive, c'est ça.
Donc qu'est-ce que vous faites, vous proposez des plats cuisinés?
Alors, moi, je suis pas chef, voilà.
Ouais. Donc, mais vous travaillez avec des chefs.
Je travaille avec des chefs. Donc par exemple, pour la mise en place de Black Spoon, on a travaillé pendant 3 mois avec un chef renommé africain ici à Paris et qui a fait toute la carte. Donc moi, j'étais partie sur une carte un peu diverse. Pour faire tout un tas de plats, et il m'a dit non, t'as un food
truck,
vous
êtes concentré,
il faut l'adapter, il faut faire quelque chose de simple, rapide, efficace. Et voilà, on a
là,
travaillé
c'est pareil,
avec
vous
lui.
Vivez en France. Alors, vous viviez en France, vous avez eu cette idée, pourquoi? C'était aussi pour faire découvrir une partie de votre identité, les saveurs que vous connaissiez depuis votre enfance.
C'est en 2013, j'ai eu vraiment une révélation. Je suis partie au Sénégal et je constatais en fait que qu'on soit dans un hôtel, dans un restaurant, n'importe où, on mangeait que européen. Et ça m'a sidérée. Je me suis dit, pourquoi aller dans un pays pour découvrir la nourriture de ce pays-là? Et en fait, on nous fait découvrir la nourriture européenne. J'ai dit, mais c'est scandaleux, c'est pas normal. Et Dieu merci, maintenant ça a changé. Donc ça fait à peu près 6 ans. Mais maintenant que je suis au Sénégal, je vois que les gens militent beaucoup sur le consommer local, les produits locaux, les ingrédients locaux, etc. Ça a vraiment bien changé depuis le temps. Mais il y a encore beaucoup de travail parce que, comme disait Anto, ils ne savent pas en fait moderniser cette cuisine. Ils sont ancrés dans des choses qu'ils ont l'habitude de faire depuis des années et des
Alors,
années.
Alors, jusqu'où on peut aller pour moderniser la cuisine africaine? Vous, par exemple, vous proposez même des sandwichs. Mmh. Est-ce qu'en Afrique, les gens sont prêts à manger des sandwichs comme en Europe Ou est-ce qu'on a besoin d'être attablés?
Ils sont complètement condiments, qui est un sandwich qu'on prend dans la rue.
Ils en mangent. Des sandwichs dans la rue, etc. Mais le problème de l'Afrique, c'est que je vais surtout parler de nos chefs que nous avons, des jeunes que nous encadrons et tout ça, c'est qu'ils restent sur des bases qu'on leur a montrées et ils ne poussent pas l'imagination plus loin.
Parce qu'on les a bornés. Parce que et même les formations en Afrique, c'est les formations françaises. Ils
n'ont pas les formations sur la cuisine. Ils ne connaissent pas vraiment notre produit.
Ils connaissent pas. Donc
voilà, le produit même du terroir, des fois, c'est à nous de leur montrer qu'on peut, ce produit-là, on peut le transformer. On n'est pas dans une fusion, au contraire. On est dans la démonstration, d'accord, des différents aspects de nos produits.
Mais disons, avant d'être dans une fusion possible, il faut déjà connaître les produits.
Voilà, c'est exactement ça. C'est apprendre d'abord à connaître ces produits-là et les apprécier. Et de par notre histoire, notre culture, nos expériences, que ça se reflète dans nos plats, tout ça dans nos plats. Mais il faut pousser ces jeunes-là à le faire.
Et surtout rattraper aussi les autres cuisines, parce que cuisine africaine, quand même, elle est...
On est en arrière, c'est un continent qui est vaste.
Donc,
on a une gastronomie énorme.
Dans cette cuisine. C'est vraiment...
Rattraper les autres cuisines, qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire la cuisine, on va dire, libanaise, marocaine.
Bien sûr,
oui,
elle n'est pas assez populaire.
Elle n'est pas assez populaire.
Je veux dire, aujourd'hui, il serait plus facile à n'importe quel ménage français de dire, bah, tiens, on va cuisiner indien. Tiens, on va se faire des sushis à la maison, plutôt que se dire, tiens, on mangerait un mafé ou un tchéboudienne ou, je ne sais pas, une sauce gombo. C'est pas encore assez populaire, parce que les gens, et je le vois quand je donne des ateliers
alors,
à Paris.
Pourquoi ce n'est pas populaire, justement? Alors, voilà.
Oui, il faut qu'on soit franc entre nous.
Disons les choses. Pourquoi?
Moi, je le dis, c'est vrai que je suis métissée, j'ai une part de l'Europe et de l'Asie en moi, mais je dois dire la vérité, c'est que en Afrique, des fois, nous avons même des Européens qui ont 20 ans, 30 ans d'Afrique qui ne mangent pas nos plats.
Pourquoi? Parce qu'on ne les connaît pas? Parce qu'on ne connaît que trois plats au final?
Voilà, ils ne sont pas rassurés. Il faut le dire, parce qu'ils ne sont pas rassurés.
Est-ce qu'ils ne sont pas rassurés ou est-ce que c'est aussi, on se dit, c'est lourd, c'est trop riche, c'est pas diététique, c'est pas
trop riche. La mayonnaise, elle n'est pas africaine. La béarnaise, elle n'est pas africaine.
On va parler des fromages.
Le foie gras n'est pas africain. Le fromage, les fromages français, j'ai jamais senti quelque chose qui sent aussi mauvais. Et pourtant, ça ne gêne personne.
Voilà.
Et
nous notre cuisine, ça sent trop fort.
Voilà.
Ça sent pas bon, ça sent trop fort.
Mais c'est la responsabilité de qui?
Mais je crois qu'il n'y a pas assez d'établissements à Paris où on propose une cuisine africaine qui soit accessible aussi.
Parce que les gens sont preneurs.
Carrément. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le restaurant.
En fait,
dans nos nouveaux concepts...
Non mais alors, c'est le seul homme. Là, j'adore, parce que tout est inversé aujourd'hui. C'est le seul homme et alors on ne le laisse pas du tout prendre la parole. Allez-y, Sylvain. Voyons, on est des chic filles quand même. Allez-y,
merci beaucoup, mademoiselle. Donc non, ouais, il y a pas, je pense, assez d'établissements à Paris qui proposent, qui soient faciles d'accès. Il y a beaucoup de restaurants africains, c'est clair. Franchement, quand on tape sur Google restaurant africain à Paris, il y en a une pléthore. Mais quand on va sur le Street View, par exemple, on regarde la devanture, ça donne pas forcément envie. Quand on passe devant, on reconnaît pas forcément que c'est un restaurant africain, ou alors c'est peut-être un peu communautaire, donc on n'ose pas forcément rentrer. Voilà, donc après, il y en a quelques enseignes qui brillent un petit peu, mais c'est pas suffisant. C'est pas comme un restaurant chinois où il y en a à tous les coins de rue. Et du coup, c'est facile. Alors que, franchement, la cuisine africaine, on peut carrément la manger emporter sur place.
Sauf que ça change.
Donc c'est facile,
quoi. Et on est sur la bonne voie parce que nous allons parler de vos initiatives. We Eat Africa. On va parler aussi de votre restaurant, de Table Métisse. Il y a énormément de restaurants avec des jeunes comme vous, métissés, qui donnent cette place à la cuisine africaine aujourd'hui en France et partout dans le monde. Allons écouter un peu de musique et on revient et on en parle.
Mon petit chanson pour famille, au moins comme ça.
Sentiment qu'on a tous partagé.
savent. Je peux pas vivre sur la
vivre route. Sur la route d'Elgrès. Jean-Louis Aubert, merci pour ce choix. Romain, j'adore cette chanson, je l'ai découverte grâce à vous. Eh bien, bienvenue à nouveau dans 7 milliards de voisins. Le débat ici est brûlant, passionné et passionnant. Avec nos invités, des gens passionnés, vraiment. Nous parlons aujourd'hui de cuisine africaine et de nouveaux concepts food. Peut-on vraiment tout adapter? C'est la question que nous vous posons. Vous pouvez également réagir avec nous au 33 1 84 22 71 71. Nous envoyer vos commentaires, vos messages, vos recettes, pourquoi pas, sur WhatsApp ou bien vos commentaires sur Facebook. Je vous propose maintenant de passer au dessert. Non, on n'a pas fini avec le salé, mais on va quand même parler un peu de dessert. Imaginez une glace roulée façon thaï aux bananes plantain. Ça vous dit ça? Moi, ça me dit. Moi, depuis hier, j'ai découvert ce truc. Je ne pense qu'à ça.
Moi aussi.
Nous allons au Togo, justement, et nous allons à la rencontre de Greta Lawson. Bonjour Greta, comment allez-vous?
Bonjour Emmanuel, ça va et vous?
Alors moi, c'est Samira, mais merci parce que j'adore la voix d'Emmanuel, donc c'est un compliment pour moi. Alors, vous, très bien. Et vous, Greta?
Ça va très bien.
Ça va? Et dis donc, c'est chaud bouillant ici, au studio. Ouais, vous les connaissez? Donc voilà,
je
vous êtes.
Anto, oui.
D'accord. Ah, bah, il faudra venir rencontrer Rima s'il vient. Et... Ah, oui, complètement.
Bonjour, Greta.
Greta, vous êtes créatrice de Crazy Cream et donc vous proposez des glaces rolls, des ice cream rolls qui viennent de Thaïlande. C'est des glaces roulées. Racontez-nous cette histoire. Donc vous avez mixé en gros les produits du terroir dont vous parliez ici au studio avec des techniques qui viennent d'ailleurs d'Asie là.
Exactement.
En l'occurrence. Racontez-nous.
Alors, donc, Crazy Cream, pour la petite histoire, est née il y a 2 ans. Mm-hmm. Donc, c'est la première franchise de crème glacée d'Afrique de l'Ouest, d'Ice Cream Rolls. D'accord. Et donc, l'idée est venue suite à un voyage où j'ai vu des artisans réaliser dans la rue, comme ça, des glaces devant nous avec les ingrédients qu'on souhaitait. Donc, suite à ça, j'ai l'idée d'importer ça à Lomé. Donc, c'est un concept qui vient d'Asie. Donc, c'est typiquement des vendeurs de rue asiatiques. Et donc, j'ai essayé d'ajouter ma petite touche en travaillant avec une base de crème glacée qui est typiquement une recette française. Mmh. Et en ajoutant des ingrédients locaux comme le fameux araué qui est la gourmandise à base de banane plantain.
Aïe.
Que j'ai découvert lors de mon voyage au Togo.
Alors, et alors, on a envie de goûter là, on ne sait pas. Décrivez-nous, racontez-nous un petit peu l'histoire.
Et araué, donc c'est une gourmandise, je pense qui vient d'Afrique de l'Ouest, donc c'est très populaire au Togo.
Oui.
Donc le principe, c'est de hacher des bananes plantains avec des épices et surtout de l'oignon, et ensuite de les faire frire. Donc c'est quelque chose qu'on prend sous forme d'apéritif, voilà. Et...
Donc c'est plutôt salé.
Comment on dit
c'est sucré parce que c'est de la banane qui est hachée très tout petit en petit.
D'accord. Et en fait, c'est à peu près comme ça, mais c'est pas la banane, c'est tout petit.
Rima,
j'adore ça, c'est devant la télé.
Il y a beaucoup de Togolais.
Ça se vend aux frontières. Tu t'arrêtes, tu achètes un petit sachet.
Et du coup, j'imagine que ça cartonne cette histoire parce que c'est tout le monde peut accéder à ce petit plaisir non coupable. ça doit cartonner, non?
Oui, ça cartonne. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir mélanger toutes ces techniques qui viennent d'ailleurs avec nos produits locaux, des choses qu'on consomme depuis la nuit des temps. Et donc le rendu est génial parce que de toute façon, les bananes plantains sont extrêmement bonnes. Donc tout ce qui est mélangé avec les bananes plantains, en général, le rendu est top.
J'adore ça.
Et donc avec une bonne glace à la vanille, des petits morceaux de araué dedans qui croustillent, c'est vraiment...
J'imagine que c'est onctueux.
Exactement, c'est très crémeux,
ça
très
fond dans la bouche.
Que, avec un petit goût caramélisé derrière, c'est magnifique.
Déjà, la présentation est surprenante.
Oui, c'est ça.
Parce que quand vous voyez, vous avez du mal à croire qu'il y a de la banane plantain.
Oui, parce que c'est roulé quand même.
C'est roulé et elle le positionne en forme de rosace. Donc vous avez votre glace avec la rosace, avec votre topping. Et quand vous goûtez, vous retrouvez la glace, le goût de glace vanille, plus ces bananes plantain qu'on vend dans la rue. Et moi, quand j'ai rencontré Greta, je me suis dit, mais c'est génial de pouvoir faire ça.
Alors, comment justement comment vous avez eu l'idée de mixer ces techniques? Parce que, ok, vous avez des produits que vous avez voulu mettre en avant et ça marche très bien, mais vous n'avez pas eu d'appréhension en voyant cette technique quand même qui vient d'Asie, ou quand même, il faut apprendre à rouler la glace, il faut apprendre à la faire. C'est un spectacle, hein. C'est vrai que les gens, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est une animation. C'est-à-dire qu'on va déguster une glace, mais on la voit se faire devant nous. Et puis, j'ai l'impression que c'est assez naturel, c'est 100% naturel. Comment vous êtes dit, ça va marcher, c'est ce qu'il faut?
Alors, je ne sais pas si je me suis dit que ça allait marcher, mais je me suis dit que c'est un produit que je voulais faire, c'est quelque chose que je voulais faire parce que j'étais très impressionnée en découvrant. Et je me suis dit que c'est quand même... Voilà, j'ai vu toutes les possibilités qui étaient possibles, parce qu'on est dans un pays avec énormément d'ingrédients assez intéressants, que ce soit en termes de fruits, avec des mangues qui sont excellentes, des gourmandises naturelles. On a quelque chose qui s'appelle le cocamba, qui est l'arachide caramélisé, donc qui est génial aussi. Donc, alors, on a beaucoup de choses sucrées qui pourraient, en fait, passer avec ce genre de dessert-là. Donc, c'était beaucoup plus une idée de se dire, je veux lancer quelque chose de nouveau.
Effectivement. Et accessible à tous aussi, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de... comment dire, dans la société togolaise, il n'y a pas de... Enfin, où on est très riche, où on l'est pas du tout.
Voilà, on n'a pas vraiment
de classe, il n'y a pas de classe moyenne. Donc là, j'imagine que c'est accessible à tous.
Et puis surtout que c'est pas inconnu, parce que le fait qu'elle fasse des glaces comme ça avec des produits typiques togolais, ça fait que le client lambda, d'accord, quand il va arriver et qu'on va lui dire voilà la glace qu'on vous présente, le nom déjà sonne. C'est connu, donc du coup il ne va pas à l'aventure, mais sans s'en rendre compte il va à l'aventure parce qu'il est en train de découvrir
donc,
une autre
moins
manière.
De préjugés, c'est ce que vous voulez dire aussi,
c'est
Rima.
Pour ça qu'on parlait, voilà.
Écoutez Greta, je n'ai qu'une hâte, c'est venir découvrir vos glaces. Je suis très frustrée, mais vraiment merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt du coup.
Le concept, c'est Crazy...
Crazy Cream.
Crazy Cream, voilà. Et donc, moi, ce que j'aimerais, Rima, que vous nous reparliez de cette histoire de préjugés, parce que je sens que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur ici. C'est-à-dire que vous êtes tous d'origine métissée, vous êtes, il y a une vraie diversité, et vous voulez faire partager ce que vous avez connu de mieux aussi pendant votre enfance. Donc la cuisine, c'est du partage, hein, c'est 100% partage. Donc c'est aussi pour ça que vous voulez moderniser, pour donner à voir la culture et la cuisine africaine. 54 États africains, donc autant de cuisines qu'il n'y a de pays, qu'il n'y a de villes.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'Afrique est vaste. L'Afrique est vaste, et de par sa superficie, mais elle est vaste en culture, elle est vaste en... sur le côté culinaire aussi. Et donc, du coup, quand on a tant de plats à présenter et qu'on a en face de nous des personnes qui ont des préjugés à se dire, voilà, on ne connaît que trois plats, on connaissons les trois plats célèbres partout où nous allons. Non, c'est faux. On a une histoire, on a une identité à raconter. Cette histoire-là, nous, on la raconte, nous, cette nouvelle génération qui sommes là... de partir de par nos grands-mères, nos mères, etc. On a aussi eu la chance de faire des études, d'avoir une certaine ouverture d'esprit qui fait que nous puisons justement dans ce côté moderne, cette expérience que nos parents nous ont permis d'acquérir, nous puisons là-dedans et nous allons chercher dans notre passé, dans notre histoire, et puis dire voilà ce que nous pouvons faire et présenter.
Quand on vous écoute tous, on a l'impression que la cuisine, c'est vraiment hautement politique. Anto, vous avez un message à travers ce que vous faites, un message à donner aux gens, faire découvrir cette richesse de la cuisine africaine, les produits de terroir, et à travers l'événement que vous allez présenter là à Dakar du 24 au 28 avril, donc We Eat Africa. Donc c'est la deuxième édition au Sénégal. L'année dernière, c'était en France, à Paris. Comment est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que les gens sont à l'écoute de ce que vous avez à leur dire? Parce que vous avez, même à la Fayette Gourmet, vous avez dévoilé, il y a eu des stands, il y a eu des ateliers. Les gens ont pu découvrir des produits africains, des produits de terroir. Comment les gens ont réagi face à ça? L'engouement.
Mais en fait, on a créé cet événement 8 Africa avec aussi Modeste, qu'on s'est rendu compte que le public était prêt. à accueillir justement les produits et la cuisine, en tout cas tout ce qui rassemble notre, nos cuisines. Et en fait, on s'est rendu... Moi, j'ai commencé comme chef à domicile. Et en tant que chef à domicile, je me suis rendu compte que je faisais un travail que les restaurateurs ne font pas souvent, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps. Le chef n'a pas le temps d'aller en salle, voir les clients et tout ça. C'est de raconter l'histoire des plats, c'est de parler du produit. Et souvent, ils peuvent même venir en cuisine et voir comment je travaille les produits. Donc, ils voient le produit brut et ils voient comment je le travaille. Et ils se rendent compte que la cuisine africaine, c'est pas du piment partout, c'est pas de l'huile, toute la bouteille d'huile qu'on verse, c'est pas du cube à outrance.
De la pâte à chaque fois.
Ça n'a rien à voir. Et du coup, ils sont, quand ils voient comment on cuisine, ils sont plus ouverts. Et justement, il y a 3 ans, quand on a travaillé avec les Galeries Lafayette, et que le public, le français, nous a dit « Mais où est-ce qu'on trouve ces produits ?» Et qu'on leur a dit « Mais vous avez à tel endroit, et qu'ils sont venus, ils ont répondu présent à 8 Africa à Paris, et que 2 semaines avant l'événement, on était sold out. »
Oui, c'est dingue.
On
vous
s'est
y
dit,
attendez.
Les gens n'arrêtaient pas de nous appeler, on veut des billets, on veut venir. On disait « Mais il n'y a pas de place, on est désolé. »
Les gens
sinon. Et on leur disait « Mais sinon, pour les raisons de sécurité, on ne peut pas prendre plus de monde. » Et après 8 Africa à Paris, les gens nous ont contactés du continent pour dire « Il faut venir faire ça sur le continent parce que 8 Africa, on a voulu mettre en avant déjà ceux qui sont derrière à cuisiner. » Parce que souvent, on parle des restaurateurs, des propriétaires de restaurants, mais on ne parle pas toujours du cuisinier qui fait en sorte que les gens viennent. Donc, on a voulu les mettre, eux, en avant. Et on a voulu mettre en avant tous ceux qui font des produits d'épicerie fine, les boissons et tout ça.
Vous parliez de miel.
Exactement.
Vous parliez de poivre africain.
Des miels, des poivres, de ce qu'on appelle la moutarde. Justement, Rima me disait, j'ai ramené de
la moutarde africaine
que j'ai découverte au Togo, qui est juste... magnifique. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un produit comme ça ne soit pas connu.
Est-ce que vous avez découvert vous-même des produits?
Il y en a en Côte d'Ivoire.
On en trouve
dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Ça s'appelle comment, la moutarde?
Au Mali.
Alors,
c'est le sombara.
En fait, c'est le sombara, mais chaque pays le travaille différemment. Et qu'on appelle Nététou, Sombala, les graines de Néré qui sont fermentées. Et ils font une pâte avec.
Au Togo, c'est affiti.
Là, je vois, ils prennent des notes.
Alors moi je le connaissais sur la version sénégalaise.
Donc vous parlez de quoi là
avec le tchèb? On est parti sur une épice là.
Ça y est,
on est perdu. Alors on revient sur terre.
Alors oui. Juste en attendant de continuer en off sur les épices, je voulais vous dire que nous avions en ligne Jules qui nous appelle de Libreville et il nous parle de deux produits qu'il travaille autour du cacao. Et je voulais, bonjour Jules, avant peut-être de donner la parole à Jules, remercier vraiment Chantal qui nous a envoyé une recette magnifique du couscous, mais qu'il fallait préparer genre 2 jours avant. il fallait vraiment que tout soit cuit et si pour un repas à 20h à 17h et il fallait tout préparer avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui vous nous proposez une cuisine vraiment moderne aussi et que chacun peut faire moderne, plus rapide, et qui peut s'adapter
à tous les régimes alimentaires.
Très bien. Jules, bonjour.
Bonjour, Samira.
Comment ça va?
Assez. Bonjour à vos invités également.
Bonjour, Jules.
Jules, qu'est-ce que vous voulez nous raconter avec le cacao?
Alors, c'est donc une modeste contribution à l'organisation de produits grandement consommés.
Oui.
Il s'agit de gari, couramment la farine granulée de manioc ou semoule de manioc.
Oui.
Et le couscous qui est la semoule de blé.
Ah oui, le gari.
Alors, consommé habituellement, mais ici, la particularité, c'est qu'ils sont désormais enrichis au cacao afin qu'ils aient une espèce similaire au riz au chocolat.
C'est une
couleur. Déjeuner ou consommer au goûter, comme coupe-pain. Hein. Et donc, afin de les sortir de leur mode habituel qui consiste simplement à accompagner un repas de poisson ou de viande. Et donc là, c'est au lieu de. Comme chaque ce matin, petit déjeuner, ben, vous avez du gari ou du couscous. En fait, les produits sont marrons ou brun rouge, voilà.
Mmh. Et qui est un très bon produit, parce que Jules m'avait envoyé un échantillon.
Vous connaissez
que
Jules.
J'ai travaillé justement le Gary Cacao et j'ai fait du crumble avec.
Ben, je suis jalouse.
Et je vois
que du crumble.
Du crumble avec ça. Toi, a déjà goûté.
Oui, mais parce que moi, j'aime aller découvrir justement toutes ces personnes.
Merci infiniment, Jules, d'avoir partagé ces recettes avec nous. Alors, justement, est-ce que ces produits, est-ce que ces recettes peuvent être diététique.
Bien sûr. Hein, bien sûr.
Parce que je vois, il y a même des recettes 100% vegan pour les gens qui ne mangent pas.
Bien sûr. C'était en février, j'ai travaillé avec dans un village de pygmées et j'ai découvert des pygmées qui mangeaient végétarien. Donc, comme quoi, c'est des gens qui n'ont pas la télé, qui n'ont pas Internet. Et je me suis dit, mais en fait, ils n'ont pas attendu que l'Europe soit à la mode du végétarisme pour manger. C'était 100% végétarien.
Et est-ce qu'on peut manger light aussi?
Bien sûr.
Quand vous parliez tout à l'heure du fromage, du foie gras, que aussi, dans la cuisine française, il y a des choses très, très riches, mais que...
Quand c'est gourmand, c'est difficile de faire forcément très light.
On sent quand même qu'il a du mal.
Oui, ça veut dire quoi, light?
Souvent, les gens me demandent, est-ce que votre cuisine est light?
Light,
c'est pas light, on peut pas dire que ça soit light. Après, on va peut-être un peu réduire les portions ou. En fait, finalement, moi, je pense que quand on va au restaurant, c'est pas pour manger light. On mange light à la maison, on mange light. On suit un régime drastique ailleurs.
Ça, c'est le restaurateur
ailleurs,
qui veut que les clients viennent.
Mais c'est ça, la
au restaurant, manger light.
En gros, si je fais un régime, je viens pas chez vous.
Ou alors, c'est un restaurant en diète, quoi.
Mais ça va. Il est light. En plus, il doit manger tous les jours là-bas. Ça va. Non, franchement, on peut y aller. Nous avons Rachel qui nous appelle de Washington et qui est originaire de Côte d'Ivoire. Bonjour, Rachel.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci.
Alors, on vous a donné faim?
Et comment?
Là, j'imagine que c'est vous qui allez nous donner faim. Dites-nous.
Ah oui, bon, écoutez, moi, ce que je voulais dire, c'est que déjà, j'apprécie toutes les interventions de vos invités. Mais je voulais faire une petite remarque, c'est que moi, étant aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de suivre de grandes émissions, compétitions ici locales de cuisine. Et il y a des chefs africains qui ont eu à participer à ces concours, qui n'ont pas eu à utiliser une cuisine métissée. Autant j'apprécie le métissage qui est aujourd'hui inévitable, non seulement dans la cuisine, mais dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'une cuisine métissée africaine pour pouvoir la vendre sur le plan international. Et je dis ça par rapport à certaines interventions que j'ai entendues. Voilà, parce qu'ici, dans un concours comme Top Chef, qui est un concours américain, avec tout le monde, je vais dire tous les participants sont américains, il y a un chef africain, ghanéen, qui a réussi à aller jusqu'au final avec la cuisine typiquement africaine, sans avoir à la métisser.
C'est une idée pertinente, d'ailleurs. Merci infiniment, Rachel, de votre intervention. Ouais. C'est intéressant. Est-ce qu'on est obligé, c'est vrai, d'apporter ce changement ou ce métissage à la cuisine africaine pour qu'elle soit reconnue, acceptée, valorisée?
Ça veut dire quoi?
Il faut savoir que
là, on a deux métisses qui sont là. Et donc, dans leur cuisine, ils métissent. Parce que être métisse, c'est aussi... Enfin, dans la cuisine, on raconte son histoire. On raconte... Moi, je ne suis pas pour la fusion. Parce que j'ai grandi au Gabon, mes deux parents sont gabonais, et donc je mets plus en avant les produits du continent. Mais je ne peux pas reprocher à quelqu'un qui est métisse, qui a par exemple qui est Côte d'Ivoire et Togo, de dire « moi je fais une cuisine avec les produits du Togo et de Côte d'Ivoire ». Qui est une cuisine métissée?
C'est une cuisine qui lui ressemble,
métisse,
finalement.
Métisse, ça veut dire deux cultures différentes.
C'est de ça qu'on parle.
Ça ne veut pas forcément dire français, ça ne veut pas forcément dire blanc et noir, mais c'est déjà deux cultures différentes. Le fait de prendre la sauce gombo d'Afrique de l'Ouest et l'Odika du Gabon, c'est déjà du métissage. Tout et pourtant, les deux viennent d'Afrique.
Oui.
Mais
après, si on veut sortir un peu de toujours les plats traditionnels, forcément, on est obligé de proposer quelque chose d'un peu métissé. Pour aller retourner dans un restaurant où il faut pas avoir toujours la même chose, sauf si c'est des restaurants de grandes enseignes qui font que des burgers, voilà. Mais même quand on va manger un burger, on change un petit peu. Donc je pense qu'effectivement, il faut changer un peu, donc proposer des choses un peu différentes.
Est-ce qu'on peut parler de cuisine gastronomique aujourd'hui, africaine? Cuisine gastronomique africaine. Vous utilisez vous-même souvent des techniques gastronomiques, n'est-ce pas?
Oui.
Ouais, là, on
ça
utilise
existe,
de,
oui.
Des
oui.
Techniques de la gastronomie oui. Française, en fait, appliquées avec des produits moins nobles qu'on va appeler bistronomie. Et donc, c'est ces mêmes techniques-là qui permettent de mettre en valeur les produits.
Tout à fait. Alors, j'ai une question ici pour vous, Doumaro Oumaru du Niger. Il vous demande quel conseil pour améliorer notre plat de haricots quotidien, le repas de la jeunesse du Niger.
C'est quoi le plat de haricots?
Alors, il parle des cornilles, justement, comme au Togo.
Vous adorez les cornilles, Réma, n'est-ce pas?
Hein, c'est la découverte. Avec un bal de niébé, par exemple.
Ouais. Oui, comme le haï moulou.
C'est ça,
voilà, c'est ouais. Ça. C'est de ça qu'il parle, justement.
Oignon rouge. Écrasé, niébé, huile de palme, oignon rouge, servi tiède avec une petite vinaigrette. Voilà, donc un peu d'acidité, un peu de fraîcheur, en même temps quelque chose de... Enfin, de très, très, très plaisant. Voilà.
Bien sûr, avec les haricots, on peut faire plein de choses. On peut faire
ou alors faire une superbe purée. Ouais. Une superbe purée, justement, ou une boule de purée avec du fromage du Niger à l'intérieur. D'accord, et puis accompagner ça justement d'une superbe viande.
Faire des cakes,
voilà, avec un jus, avec une sauce au bissap et miel par-dessus.
Je crois que
c'est magnifique.
Fatih, vous allez être présente là au oui. Sénégal, hein, à Dakar. Oh. Oui. Fatih, quand on lance, on a très peu de temps là, mais j'aimerais bien quand même vous entendre. Quand on lance le premier food truck de cuisine africaine, on a une lourde responsabilité. Hein.
Très lourde. Mais nous, en fait, quand on a étudié le marché, on a un peu recensé ce que connaissaient en fait les Français dans la cuisine africaine. Et les plats les plus connus, c'était les plats sénégalais. Oui. Du fait de l'immigration, etc., dans les années 50, etc. Donc, on est parti sur les plus classiques, donc poulet yassa, mafé, tiboudienne. Et on a essayé déjà de partir sur ça et de proposer ces plats-là. On avait beaucoup d'interrogations. Comment c'est fait? Est-ce que c'est pimenté? Est-ce que c'est gras? Est-ce que c'est diététique? Est-ce que c'est... Voilà, on avait pas mal de questions. Donc pendant un an comme ça, on a essayé de répondre aux gens, les rassurer, voilà, leur faire goûter. Et voilà, c'était vraiment un exercice pendant une année. Puis après, c'était fluide.
C'est un sujet riche. Je comprends le concept We Eat Africa qui se tiendra à Dakar au Sénégal du 24 au 28 avril. Cette année, vous parlez de la place des femmes dans la cuisine
féminine, spéciale
africaine. Oui, tout à fait. C'est intéressant, c'est important. Merci beaucoup. On a manqué de temps. Moi, je pense qu'il faut vraiment parler plus de cuisine. Tout à fait. Merci à vous tous. Merci Anto Cocagne et merci Sylvain Ajavon, merci Fatih Niang, merci Rima Amer, et merci également Greta Lawson et toutes les voisines et les voisins qui ont participé.
Merci.